chers auditeurs. Au micro, Paulouzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, une émission sur Radio Shalom. Les élections législatives israéliennes de 2022 auront lieu le 1er novembre prochain. Elles désigneront les 120 membres de la Knesset, le Parlement israélien. Initialement prévu pour le mois d'octobre 2025, ce scrutin est organisé de manière anticipée pour la cinquième fois consécutive, en moins de 4 ans, à la suite de l'émiettement de la coalition au pouvoir. Peut-on attendre des changements politiques importants de cette consultation des citoyens israéliens? Pour répondre à cette question, nous recevons Shana Orlik. Shana Orlik est actuellement conseillère en charge des affaires de la société arabe auprès de Yair Golan, le vice-ministre de l'économie. Auparavant, elle a travaillé pour l'Organisation sioniste mondiale en tant que chef de projet pour la jeunesse. Shana Orlik est membre du parti Meretz et candidate aux élections sur cette liste. Vous m'entendez, Shana Orlik ?
Oui, bonjour.
Voilà, bonjour Shana, bienvenue sur notre antenne. Alors Shana Orlik, dans 5 semaines, il y aura les élections en Israël. Est-ce que cette consultation se déroule dans le même climat que la campagne de 2021 ? Est-ce que c'est très tendu politiquement et socialement comme cela l'a été ?
Alors je dois dire que pas tellement. On se rapproche, on est même à 3 semaines des élections et je dois dire que le timing qui est en fait cette campagne qui tombe sur les fêtes juives, sur les fêtes de Tishri, est assez calme. Je dois dire que c'est vraiment une ambiance un peu différente et on s'attend à ce que les 2 dernières semaines, donc juste après la fin de Sukkot, seront elles très très intensives. Je pense que tout va se jouer sur ces 2 dernières semaines. Pour l'instant, il y a quand même des provocations de Itamar Ben-Gvir, de Bezalel Smotrich, des candidats...
des gens de l'extrême droite kahaniste, raciste.
Tout à fait, avec des réponses du camp de la gauche ou du camp démocrate, et des apparitions de Benjamin Netanyahu qui font un petit peu parler, mais je dois dire que c'est quand même très calme et il y a franchement un ras-le-bol. Voilà, je n'ai pas trop d'autres mots. Les citoyens israéliens en ont marre. Ils ne veulent pas retourner voter. Ce que j'entends, c'est que, vous savez, en Israël, quand on a une journée d'élection, on a aussi une journée de congé. Et donc, ce que j'entends, c'est des gens qui sont ravis d'avoir une journée de congé
sur
le 1er novembre, bien plus que de retourner aux urnes.
Ah d'accord. Donc, c'est le calme parce que la fatigue.
La fatigue, et puis les fêtes. Je pense que les Israéliens préfèrent être en famille et parler d'autre chose.
D'accord. Alors, vous me parliez du camp démocrate, Shana Orlik. Est-ce que l'on peut dire que ces élections vont être, encore une fois, marquées non pas par le clivage gauche-droite, qui n'est peut-être plus opérationnel en Israël, mais par ce qu'on a vécu auparavant, c'est-à-dire d'un côté le camp anti-Bibi, c'est-à-dire la gauche, le centre et la droite libérale, avec le soutien de certains partis arabes, et puis contre le centre, pro-Bibi, c'est-à-dire la droite nationaliste, l'extrême droite religieuse et l'ensemble des orthodoxes, c'est-à-dire 2 blocs qui s'affrontent. Pour nos auditeurs, quand dit Bibi, c'est le surnom de Benjamin Netanyahu. Qu'en pensez-vous, Shana Orlik ?
Je pense que c'est une très bonne analyse. Le clivage gauche-droite existe toujours, mais la campagne et la réalité politique... ne le laisse presque pas apparaître ce clivage parce qu'on a une question qui est bien plus importante qui est la question est-ce qu'on peut avoir un Premier ministre qui est en procès pour corruption notamment et bien que la Cour suprême israélienne ait dit que Netanyahu pouvait effectivement se présenter être candidat, on sait qu'en Israël un ministre ne peut pas être en procès. Donc il y a ici vraiment une question de fond qui occupe énormément les Israéliens. Et c'est vrai que le clivage qu'on voit dans les discussions sur la future coalition, le futur gouvernement qui se formera après les élections, on voit très bien que le clivage gauche-droite est un peu mis de côté parce qu'on a des partis qui sont vraiment de droite, notamment avec Benny Gantz et Starr, qui sont des hommes politiques de droite, mais qui se ont affirmé ne pas vouloir être dans un gouvernement avec Netanyahou tant qu'il a des histoires juridiques à gérer. Donc aujourd'hui, c'est la situation. Le camp de la gauche est toujours présent, mais on dirait que le camp de la gauche, en fait, est devenu un camp démocrate libéral qui dépasse ce clivage et qui, aujourd'hui, en fait, on le sait, si Netanyahou partait et renonçait à se présenter, à être candidat et s'occuper de son jugement, je crois vraiment que la droite serait au pouvoir sans de grandes difficultés à former un gouvernement. Donc la question centrale en politique aujourd'hui en Israël, c'est Netanyahou, et donc c'est ce qui crée le clivage politique pour ces élections.
D'accord. Donc on a un remix l'avant-dernière fois, de la dernière fois.
Oui, jusqu'à ce que soit il finisse avec son procès, soit qu'il aille en prison, soit qu'il soit acquitté, soit qu'il décide
d'arrêter, qu'il sorte de la vie politique.
À quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, c'est pas la direction que ça prend.
D'accord. Alors, dans ce contexte, quelles sont les chances de la gauche israélienne ? Et puis, expliquez-nous pourquoi le Meretz et le Parti travailliste ne se sont pas constitués en liste unique, alors que la droite et l'extrême droite ont déjà établi des listes communes.
La situation de la gauche est un peu semblable à la gauche, je crois, en Europe. Elle est assez faible, il faut le reconnaître. Les partis de gauche et du centre ont du mal à convaincre, malgré de grosses réformes qui ont été menées par ce gouvernement du changement. Il semble que les faits de réformes et d'avancées de budget pour la société n'est pas forcément un impact sur le choix des électeurs israéliens. Là où on nous dit le Meretz, par exemple, a été super au ministère de la Santé, ce que vous avez fait, c'est super, mais moi, je ne voterai pas Meretz, je vais voter pour Yair Lapid ou quelqu'un d'autre. Donc, il y a vraiment une déconnexion entre les valeurs de gauche
et les votes.
Et le vote des électeurs qui va vers un vote qu'ils appellent le vote utile, qui n'est pas forcément le plus utile d'ailleurs, qui pense à voter pour les gros partis, les grands partis, sauf qu'avec le modèle israélien, on sait qu'on a besoin des petits partis pour former une coalition. Donc la gauche est cantonnée au stade de petits partis. Et la raison pour laquelle, cette fois-ci, le Parti travailliste et le Meretz ne se sont pas unis, c'est malgré des demandes officielles dans la presse du Meretz de tendre la main vers le Parti travailliste. Le Parti travailliste, avec en tête Merav Mikhaeli, a refusé cette union pour des raisons qu'elle défend être stratégiques, en disant que les deux partis sont à peu près à 4 ou 5 mandats chacun dans les sondages, ce qui permettrait d'avoir une dizaine de sièges au sein de la Knesset, au sein du Parlement, qui seraient pour la gauche. Et elle était prête à prendre le risque qu'un des deux partis ne dépasse pas le seuil d'éligibilité, ce qui serait une catastrophe, parce qu'étant donné que le système est en plus proportionnel, si l'un des partis de gauche ne passe pas, ça va renforcer l'extrême droite et les kahanistes. Donc c'est un risque qu'elle a décidé de prendre. Au sein du Meretz, on pense également qu'il faudra, après les élections, quelle que soit l'issue des élections, réfléchir à cette union, non pas à la veille d'élections, mais comme un changement structurel qui permettrait à la gauche israélienne de se renforcer.
D'accord. Tout en sachant que quand on additionne, ça ne fait pas toujours un résultat plus positif.
Exactement, c'était son argument.
D'accord. Alors, Shana Orlik, est-ce que la question sociale pourrait s'inviter dans le débat des élections ? L'inflation, le logement, le coût de la vie, le salaire. Et est-ce que les affaires et les procès concernant Netanyahou pourraient être aussi invités pendant les débats électoraux ?
Oui, je pense que ce sont deux sujets, on le voit, le coût de la vie, le logement, l'impossibilité pour les Israéliens d'acheter, de devenir propriétaires de logements. Ce sont des questions qui, plus que jamais, font partie de ces élections. Il faut le dire, d'habitude, on est principalement sur des sujets sécuritaires et bien moins sur des sujets sociaux. Cette fois-ci, je dois le dire, on ressent, même dans les questions des journalistes, dans les questions, vous savez, dans les micro-trottoirs où on demande aux gens ce qui les intéresse, Et à travers les sondages également, on se rend compte que le sujet du coût de la vie, de l'inflation et du logement sont centraux dans ce que les électeurs veulent discuter. Malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas forcément ce dont les politiciens veulent parler. Il n'y a pas forcément de réponse, aussi bien au centre qu'à droite. Je pense qu'à gauche, au Mérette et au Parti travailliste particulièrement, ce sont des sujets phares. Mais ça reste un sujet qui n'est pas vraiment traité, où il n'y a pas de proposition de fond et où les politiciens utilisent principalement ce qu'on appelle en hébreu des sismaot, c'est-à-dire des mots-clés,
des symboles,
slogans vides de sens en disant « Oh bah oui, mais si la vie est chère, vous voulez quand même pas qu'on vous augmente vos taxes ». Voilà, ça c'est ce qu'on entend très souvent à droite, des choses comme ça un petit peu déconnectées, populistes, qui ne viennent pas apporter des solutions concrètes aux électeurs. Et malheureusement, on en est un peu resté à ce niveau-là.
D'accord. Vous avez évoqué les tensions sécuritaires. Or, en ce moment, il y a des grandes tensions sécuritaires. On n'en parle pas beaucoup. Mais en Cisjordanie, il y a des attentats contre les Israéliens. Tous les soirs, toutes les nuits, il y a Tzal qui intervient dans les villes palestiniennes. Il y a beaucoup de morts de chaque côté. Est-ce que ça peut jouer sur les élections ?
C'est une bonne question.
C'est très chaud en ce moment. Hein.
Oui, mais je n'ai pas l'impression que ça vienne particulièrement changer les discours pour ces élections. Du côté israélien, vous dites qu'il y a beaucoup de morts des deux côtés. C'est vrai que...
Je crois qu'il y a une vingtaine de morts du côté israélien et une centaine du côté palestinien.
Voilà, les chiffres sont vraiment extrêmement perturbants. La situation ne fait que s'aggraver. Mais je dois dire que là où, par exemple, l'Iran ou l'accord entre Israël et le Liban sont extrêmement politisés, notamment par la droite qui s'en sert contre le gouvernement actuel, contre Yair Lapid. Le sujet de la Cisjordanie et de ce qui se passe effectivement aujourd'hui avec les opérations de Tzahal, ce n'est pas en tout cas instrumentalisé. Je dois dire que ça reste quand même du domaine sécuritaire. Là où moi, j'ai envie de dire que la voix de la gauche me manque dans ces élections, c'est qu'en fait, année après année, systématiquement, on retombe dans des opérations qui n'en finissent pas avec la volonté de détruire des cellules terroristes, et Israël sait le faire. Mais la question qu'on devrait se poser et que j'aimerais poser, si j'en avais le pouvoir au sein de ces élections, c'est
Vous pourriez demander à Yair Golan, il est bien placé.
Et lui, il en parle. Il dit on est à un moment historique pour Israël où il faut décider qu'est-ce qui va nous donner notre sécurité. Aujourd'hui, la sécurité des Israéliens n'est pas assurée avec la situation du conflit israélo-palestinien. La seule solution, et ils sont de nombreux généraux haut gradés de l'armée à le dire, la seule solution pour protéger les citoyens israéliens et ne pas retourner de façon infinie dans ces cycles terroristes et de réponses et d'opérations militaires, c'est d'être courageux et de prendre notre futur entre nos mains en tant qu'Israéliens et de dire on s'arrête. La sécurité d'Israël passe avant tout et la sécurité d'Israël, on ne pourra l'assurer qu'avec la création d'un État palestinien à côté de l'État israélien et avec le processus de paix qui doit être enclenché. Et ça, malheureusement, ça ne fait pas partie des sujets de nos élections.
D'accord. Alors, il y a une petite innovation cette année. Il y a 20% d'Arabes israéliens, des citoyens israéliens, et le plus grand parti arabe, la liste arabe unifiée, a éclaté. L'autre parti arabe, Ra'am, que vous connaissez bien, il soutient le gouvernement de Yair Lapid. Alors, comment se positionnent aujourd'hui les partis arabes ? Quelle sera leur influence sur le résultat des élections, vous pensez ?
C'est vraiment une question clé, sachant que tout est proportionnel en fait en Israël dans le système électoral. Donc un parti, je rappelle à ceux qui nous écoutent qui ne s'en rappellent peut-être pas, la raison pour laquelle la liste unie arabe a été créée, c'était après une réforme d'Avigdor Lieberman dans un gouvernement Netanyahou qui avait imposé un seuil d'éligibilité pour justement essayer de contrer les partis arabes d'arriver à la Knesset. Mmh. Donc une fois qu'il y avait ce danger-là, ils se sont unis, ces partis, et ont reçu des mandats très impressionnants, jusqu'à 15 sièges pour les partis arabes, en ayant quand même de très 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 grosses
différences.
Mmh. Voilà, c'est des partis qui, au-delà de leur identité de représenter les citoyens arabes, n'ont absolument rien en commun. Donc je pense que, et on l'a vu avec l'entrée de Ram, qui est censé être le parti entre guillemets islamiste d'Israël, mais qui est venu soutenir la coalition et ont vraiment fait partie du jeu démocratique cette dernière année, avec un grand succès, je dois le dire, avec l'avancée de politiques sociales qui avancent la société arabe et qui avancent la société israélienne dans son entier, évidemment. Et donc, face à ce changement vraiment historique d'un parti arabe qui soutient la coalition et qui fait partie du gouvernement, je pense que ça a vraiment fait basculer la stabilité de la liste arabe unie avec des questions. Aujourd'hui, Mansour Abbas, qui est le président, le chef de Ram, ne s'engage pas à soutenir seulement le camp du changement, comme on l'appelle, avec Yair Lapid ou Benny Gantz en tête. Il n'a jamais officiellement dit qu'il ne serait pas dans un gouvernement avec Netanyahou. Donc il laisse toutes les options ouvertes. Ce qui est des autres partis arabes, on a effectivement le parti Balad, qui est le parti nationaliste palestinien, qui aujourd'hui ne dépasse pas le seuil d'éligibilité dans les sondages et risque de ne pas être
à la Knesset. Mmh.
Et pour ce qui est de Ram, qui est assez fort principalement dans le Negev chez les Bédouins, étant donné que les instituts de sondage ne savent pas très bien interroger les citoyens bédouins qui malheureusement n'ont à peine l'électricité et l'eau courante, ça risque d'être un peu la même chose qu'aux dernières élections où les sondages disaient qu'ils n'allaient pas passer et au final ils ont eu un score tout à fait honorable. Donc par rapport à ce qui est des pronostics pour les partis arabes, c'est très difficile car les instituts de sondage sont aussi peu performants dans la réalisation des sondages au sein des 20-21% des citoyens arabes.
D'accord. Alors une dernière question, Shana Orlik, parce que le temps passe vite avec vous. Qu'est-ce que disent les derniers sondages ? Qu'est-ce qu'ils donnent ?
Ils donnent la même chose depuis des mois.
Ah
c'est-à-dire
bon
l'instabilité continue. Aucun camp n'a 61, donc une majorité pour former un gouvernement. Ce que je dois dire, c'est que ça fait donc ça fera sûrement 5 élections que Netanyahou n'arrive pas à former une coalition. Il a réussi quand Benny Gantz s'est mis avec lui, mais ça s'est effondré très rapidement. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on est dans une situation tout à fait similaire avec l'impossibilité, d'après les sondages, mais vraiment c'est constant, l'impossibilité de former un gouvernement stable. Et donc, les options qui restent probables, ce sera soit un 6e tour d'élection qui serait du coup
mais c'est pas possible, ça.
En mars 2023 à peu près, ou bien un gouvernement qui arriverait à se former, voilà, comme un gouvernement comme on l'a eu actuellement, qui était improbable, c'est-à-dire 8 partis différents, un parti arabe qui soutient la coalition. Donc, autant vous dire que le suspense reste entier et il faudra attendre le 1er novembre au soir pour avoir les résultats des élections. Il faudra attendre bien plus que ça, bien plus tard que ça, pour même savoir s'il y a une chance de former un gouvernement ou si on repart pour un 6e tour d'élection.
Ok, eh bien écoutez, on va suivre ça avec vous, Shana Orlik, et puis on vous remercie d'avoir participé à notre émission, puis d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Bonne semaine à tous et à toutes, et à dans 15 jours. C'était Paul Ouzier-Meyerson à l'antenne avec Chronique pour la paix.